Bonsoir, il est exactement 14h à Washington, 21h à Mousvezve et Karoy dans le Mashonaland occidental au Zimbabwe. Bienvenue au bulletin présenté par Nanit Talani. À Dar es Salaam en Tanzanie, les équipes de secours tentent de sauver des personnes piégées sous les décombres d'un immeuble effondré hier samedi, causant au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Au moins 70 personnes ont été secourues, tandis que des survivants coincés sous le sous-sol ont reçu de l'oxygène et de l'eau. Le bâtiment situé à Kariako, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que les gens y faisaient leurs courses. Les causes de l'accident ne sont pas connues, mais des témoins avancent que les travaux d'agrandissement du marché souterrain avaient débuté vendredi. Le premier ministre indien Narendra Modi a rencontré ce dimanche le président nigérian Bola Tinubu pour consolider un partenariat stratégique entre l'Inde et le Nigeria, deux puissances démographiques d'Asie et d'Afrique désireuses de renforcer leur influence mondiale. Accueilli en grande pompe à Abuja, M. Modi a exprimé sur les réseaux sociaux son souhait d'approfondir les relations bilatérales avec le Nigeria. Nous avons toujours travaillé ensemble pour relever des défis comme le terrorisme, le séparatisme, la piraterie et le trafic de drogue, a-t-il ajouté. Bola Ahmed Tinubu a également exprimé son désir de renforcer ce partenariat stratégique. À mi-parcours de la COP19, les négociations entre les pays riches et les pays en développement sont dans l'impasse à Bakou en Azerbaïdjan, notamment sur la manière de mobiliser les 1 000 milliards de dollars pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance au pétrole, faire face à la transition énergétique et aux catastrophes climatiques. Les pays en développement, dont ceux d'Afrique, réclament 1 300 milliards de dollars par an sous forme de subventions et non de prêts. Mais les pays occidentaux insistent sur le fait que leurs fonds publics ne couvriront qu'une fraction de ce montant, misant sur le secteur privé et des contributions de nouveaux acteurs comme la Chine. En parallèle, environ 200 militants ont manifesté hier à Bakou, demandant aux pays développés de payer leurs dettes climatiques.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, maintient sa position contre la publication d'un rapport parlementaire concernant les accusations contre Mark Gates, élu républicain de Floride. Choisi par Donald Trump, Mark Gates, comme ministre de la Justice, a démissionné mercredi après des révélations sur des infractions présumées, notamment une relation avec une mineure, la consommation de drogues illégales et des détournements de fonds. Bien que l'enquête de la commission d'éthique soit désormais suspendue, des membres du Congrès de tous bords demandent que le rapport soit au moins transmis au Sénat, qui doit valider les nominations présidentielles. L'Ukraine appliquera lundi des mesures de restriction de consommation d'électricité sur tout son territoire après une vaste attaque russe qui a fortement endommagé ses infrastructures énergétiques, a annoncé ce dimanche le gestionnaire du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo. Demain 18 novembre, toutes les régions seront contraintes d'appliquer des mesures de restriction de consommation en raison des dommages causés aux installations électriques pendant l'attaque massive de missiles et de drones, a écrit l'opérateur sur les réseaux sociaux. Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement critiqué un rapport d'un comité spécial de l'ONU qui qualifie les méthodes de guerre israélienne à Gaza de génocide. Ce rapport est un exemple consternant de la transformation de l'ONU en une organisation utilisée comme pion par des terroristes, d'après Israël, qualifiant le rapport de biaisé et anti-israélien. Ce rapport, qui sera présenté demain lundi à l'Assemblée générale de l'ONU, affirme qu'Israël, par ses actions militaires, obstrue l'aide humanitaire et provoque des souffrances intentionnelles, y compris la mort et la famine. Israël rejette ces accusations, soulignant que son objectif est de détruire les installations du Hamas et non de viser des civils. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Mandela-Kidza avec vous au micro. Notre sujet ce soir, laïcité et liberté religieuse. Quelle place pour des signes religieux à l'école au Sénégal? Josèle Morissin assure la réalisation de cette édition. Le Sénégal, réputé pour sa tolérance et sa coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses, vient de franchir un tournant avec l'autorisation du port de signes religieux dans les établissements scolaires, publics comme privés. Cette décision marque une étape importante dans la réaffirmation du vivre ensemble et de la diversité religieuse, mais soulève aussi des questions cruciales sur la laïcité, le respect des croyances individuelles et la neutralité de l'espace scolaire. Cet arrêt est-il nécessaire? Quel impact cette mesure aura-t-elle sur la société sénégalaise? Quels impacts pourrait-il avoir sur la coexistence des différentes religions dans l'espace scolaire? C'est ce que nous allons explorer ce soir dans ce dialogue des religions avec notre invité. C'est Ibrahima Kan de l'Osua. Il est avec nous en ligne. Monsieur Kan, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Pourquoi pensez-vous que le port de signes religieux dans les établissements scolaires a ressurgi comme un sujet sensible au Sénégal?
Parce que c'était la volonté de l'actuel Premier ministre qui, au cours d'une rencontre avec de jeunes élèves qu'il avait reçus après une cérémonie de distribution des prix, leur a dit que désormais qu'il allait pratiquement imposer le port du voile dans toutes les écoles du Sénégal, qu'elles soient publiques ou privées. Mais à vrai dire, le problème s'était posé il y a quelques années, lorsque un groupe de jeunes de confession chiite avait, dans une école privée catholique, voulu porter des habits que l'école avait considérés, conformément au règlement à son règlement intérieur, inaptes à permettre aux enfants de vaquer à leurs occupations d'élèves dans la classe. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait suscité un tollé parce que ces jeunes filles avaient été soutenues par quelques familles sénégalaises et par quelques groupes religieux. Mais finalement, après des discussions entre le ministère de l'Éducation, l'école et les parents d'élèves, un compromis avait été trouvé et tout était rentré dans l'ordre. Donc, le fait que cette question revienne aujourd'hui, je pense, participe de la volonté du Premier ministre actuel d'imprimer un tout petit peu sa marque au fonctionnement de l'école et surtout de contenter un peu certains groupes religieux qu'il avait soutenus dans sa campagne pour la prise du pouvoir.
Pensez-vous que cette mesure peut affecter la neutralité de l'espace scolaire?
Alors, cette mesure a été une plutôt. Cette mesure, elle est consécutive à un arrêté du ministre de l'Éducation nationale juste le jour de l'ouverture des classes en direction de toutes les écoles du Sénégal, leur intimant, si je puis dire, l'ordre d'accepter les enfants qui portent des signes religieux, que ce soit catholiques ou musulmans. Mais en réalité, cet arrêté visait simplement à imposer le port du voile dans les écoles privées. Et comme je vous l'ai dit tantôt, étant donné qu'une solution avait été trouvée, la question se pose de savoir, mais pour quelle raison a-t-on voulu vraiment casser ce consensus et créer une situation qui a même fait bouger un tout petit peu le clergé sénégalais et certains directeurs d'écoles catholiques, dont la plupart des élèves sont de confession musulmane, pour dire que la démarche des autorités n'était pas la bonne et certains même avaient dit qu'ils allaient s'opposer à l'application de cette décision. Je pense que ici, une des conséquences immédiates, c'est de créer, en tout cas de susciter une sorte de polémique qui n'avait pas, à vrai dire, sa raison d'être, parce que on est dans un pays qui est un pays tolérant, on est dans un pays dont la Constitution indique que l'État fonctionne en tant qu'État laïque, c'est-à-dire dans lequel l'État n'a rien à voir avec la religion, mais laisse les religions s'exprimer les uns les unes et les autres. Et donc, on ne voit pas vraiment quelle est la valeur ajoutée d'une telle décision dans le fonctionnement des écoles qui, cependant, ces écoles-là rencontrent beaucoup, beaucoup de difficultés, notamment au point de vue matériel, au point de vue infrastructurel et autres. Ce sont ces questions-là que les citoyens voulaient voir réglées par les autorités, ou en tout cas voir les autorités commencer à poser les jalons d'un règlement définitif de tous les problèmes de l'école, plutôt que de venir secouer un tout petit peu le baobab d'une certaine façon en essayant de créer une certaine polémique qui, heureusement, n'a pas encore pris forme, dans la mesure où beaucoup d'acteurs du secteur de l'éducation ont élevé la voix pour demander aux autorités de ne pas agiter cette question et demander aux autorités d'adopter une autre façon de faire pour vraiment amener un consensus autour de cette question-là. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui mérite d'être soutenu, et je ne pense pas que cette question-là va vraiment avoir un grand impact sur le fonctionnement des écoles dans les semaines et mois à venir.
C'est un arrêté pris par le ministre de l'Éducation. Est-ce que il reflète une volonté de renforcer la tolérance religieuse, ou est-il une réponse à une pression politique ?
Pression politique, peut-être pas, mais volonté politique de la part des nouveaux dirigeants d'imprimer leur marque sur le fonctionnement de l'école, oui. Parce que on sait que le parti PASTEF, qui est actuellement au pouvoir, a été beaucoup soutenu durant la campagne électorale par les responsables des DARA, qui sont des écoles coraniques et autres. Et donc, bénéficiant d'un tel soutien, je pense que, et puisqu'on est aussi à l'orée d'une élection législative, je pense que l'agitation allait dans le sens vraiment de mobiliser ce secteur-là pour qu'ils apportent aussi un soutien au parti. Mais du point de vue général, je n'ai pas vu un soutien massif de la part de la population. Je n'ai même pas vu de réaction vraiment très sérieuse de la part des confréries religieuses, qui sont quand même des entités très importantes chaque fois qui réagissent chaque fois que des questions importantes surtout dans le domaine du religieux se posent au Sénégal. Ils ont été pratiquement toutes silencieuses, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les acteurs de l'éducation ont vraiment appelé les autorités à mettre un tout petit peu bas la terre et à vraiment œuvrer dans le sens de la recherche d'un consensus plutôt que de vouloir imposer des mesures que eux seuls connaissent vraiment la réelle motivation.
Est-ce que c'est une mesure qui risque, par exemple, d'avoir un impact sur la qualité de l'enseignement, comme le craignent certains enseignants ?
Bon, sincèrement, non, parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit simplement pour les autorités de permettre à ce que les jeunes filles arrivent à porter le voile. Ce que les autorités religieuses catholiques, en tout cas, ce sur quoi les autorités catholiques avaient insisté, c'était le fait que, oui, pour le port du voile, mais pas pour le port vestimentaire qui peut constituer des problèmes lorsque les enfants vont avoir des activités scolaires telles que des activités sportives et autres à mener. Et donc, vous voyez que ça ne porte pas sur le contenu de l'éducation, c'est juste sur un certain nombre d'activités, un certain nombre de formalités pour vraiment permettre aux enfants de mener à bien leurs activités. Les activités en salle de classe, je ne pense pas que cela puisse avoir un impact. Vous voyez, c'est parce que c'est tellement superficiel, cette question du voile, que l'on se demande d'ailleurs pourquoi elle a été agitée à la veille de l'entrée des classes, alors que en fin d'année dernière, on aurait pu, puisque ils ont pris le pouvoir avant la fin de l'année, en fin d'année dernière, on aurait pu commencer à avoir des discussions avec les différentes entités. Chaque fois que l'école sénégalaise est confrontée à des réformes, ces réformes ont été discutées de fond en comble par toutes les parties prenantes, et généralement, les parties prenantes arrivaient à des consensus, et ces consensus permettaient de régler le problème. D'ailleurs, la structure qui regroupe des syndicats, des organisations de la société civile, qui s'appelle COSIDEP, a sorti un communiqué dans lequel il a vraiment insisté sur le fait que les autorités doivent vraiment agir dans le sens du consensus plutôt que de vouloir coûte que coûte imposer des mesures qui n'ont pas été discutées avec les parties prenantes. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on a, comme qui dirait, l'État contre tout le reste de la communauté scolaire sur cette question. Et ça, je pense que c'est déjà un bon indicateur pour bien saisir le caractère vraiment politicien de la démarche des autorités plutôt que la recherche vraiment de mesures, ou plutôt la mise en place de mesures susceptibles d'aider les filles sénégalaises à mieux pratiquer leur religion au niveau de l'école. Parce que à l'école au Sénégal, que ce soit dans les écoles catholiques ou dans les écoles musulmanes, il y a des espaces pour prier, il y a des espaces pour se reposer, et donc le port du voile n'est pas vraiment un élément très important dans le bon fonctionnement de l'école, surtout quand il s'agit de pratiquer sa religion.
Vous suivez le dialogue des religions, Eric Mandela-Kiza avec vous ce soir. Laïcité et liberté religieuse, quelle place pour les signes religieux à l'école au Sénégal? Notre invité, c'est Ibrahima Khan. Ne partez pas, nous observons une petite pause. Monsieur Khan, comment concilier la liberté religieuse des élèves avec la nécessité de respecter la discipline et l'ordre dans les écoles? Quels ajustements seront nécessaires pour appliquer cette nouvelle mesure tout en préservant les valeurs fondamentales de l'école?
Normalement, toutes les écoles sénégalaises ont un règlement intérieur. Et c'est le règlement intérieur qui vraiment gère toutes les questions comportementales, toutes les questions vestimentaires et autres. Et ici, donc, ce qui est demandé à travers l'arrêté ministériel, c'est des changements dans le règlement intérieur pour permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer leur religion. Et comme je vous l'ai dit, si on s'appuie sur l'expérience passée, le règlement intérieur d'une école catholique, à l'époque, c'était une école des sœurs, avait permis, en tout cas le dialogue entre les autorités et l'école avait permis de trouver un compromis, et les jeunes filles en question étaient parvenues à continuer leur cours en respectant un certain nombre de règles. Et je pense que dans ce cas précis aussi, ça devrait être la même démarche, même si le gouvernement décrète qu'il faut accepter le port du voile dans les écoles, parce que les écoles ont quand même une certaine marge de manœuvre qui leur permet d'adapter la mesure qui est prise par les autorités à la réalité de l'éducation de tous les jours pour permettre aux enfants de pouvoir mener à bien toutes les activités éducatives au niveau de l'école. Donc, en dehors de cette réforme du règlement intérieur, je ne vois pas d'autres mesures qui pourraient être prises pour changer la donne. Et c'est tellement minime, par exemple, que
le règlement intérieur, heureusement, ne sépare pas les garçons des filles pour l'organisation des activités d'éducation physique et autres, parce que si ces mesures-là avaient été prises, là, ça aurait été une indication qu'on est vraiment dans un vrai tournant, qu'on est en train de vraiment changer la donne au niveau de l'éducation. L'éducation est laïque, le Sénégal est un pays laïque, et je me souviens encore de l'article du professeur Seydou Madanissi qui disait que la laïcité sénégalaise est une laïcité compréhensive, en ce sens que au Sénégal, dans le système laïque qu'on a mis en place, c'était un système laïque dans lequel toutes les religions doivent se retrouver. Toutes les religions doivent trouver leur place dans le système. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que si vous prenez le code de la famille sénégalaise, le code de la famille sénégalaise, c'est un seul code pour aussi bien les musulmans, les catholiques les personnes qui ont des religions animistes et autres. Donc vous voyez que dans un contexte pareil, il faut que les gens sachent raison garder et il faut que on prenne des mesures qui n'ont pas d'impact négatif sur la façon, la manière dont les religions peuvent penser l'exercice de la religion par les enfants. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très, très clair au Sénégal et j'espère que la manière dont les mesures vont être appliquées vont permettre de faire respecter cette laïcité-là telle que nos dirigeants jusqu'à présent l'ont conçue.
Vous avez lu dans ma pensée, j'allais justement vous poser une question sur la définition de la laïcité dans le contexte sénégalais, selon vous, venez donc d'y répondre. Est-il juste de dire que la question du port du voile a pris trop d'importance par rapport au défi réel de l'éducation au Sénégal?
Tout à fait. Bon, vous savez, quand une équipe nouvelle vient au pouvoir, elle a toujours tendance, ça a été le cas de Abdoulaye Wade lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le cas de Macky Sall lorsqu'il est arrivé. Ils ont le régime qui prend le pouvoir a toujours tendance à vouloir imprimer sa marque sur le fonctionnement de l'État. Macky Sall avait organisé des assises de l'éducation de l'enseignement supérieur, Abdoulaye Wade avait aussi organisé des assises, et je pense que les nouvelles autorités là ont voulu commencer leur action dans le domaine éducatif en insistant sur cet aspect symbolique là qui est le respect de le respect du port du voile dans les écoles privées en pensant que c'était une manière de dire que que les musulmans peuvent aussi exprimer leur appartenance religieuse. Mais en même temps, la question elle est tellement mal posée parce qu'on risque de se retrouver dans une sorte de fuite en avant populiste des autorités. Parce que l'école sénégalaise, il y a quelques semaines, le Premier ministre lui-même, en préparant la rentrée scolaire, avait fait le constat sur l'école sénégalaise. Mais c'est un constat assez dur. L'école sénégalaise manque presque de 40 000 enseignants. On a 7 000 abris provisoires, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas de salle de classe. Des abris provisoires, c'est des cases, c'est des trucs qu'on utilise pour encore enseigner. Il y a eu tellement de problèmes qui ont été posés dans ce diagnostic-là, que l'on aurait pensé que les autorités commenceraient par régler ces problèmes-là plutôt que d'insister sur des aspects qui sont vraiment assez dérisoires par rapport aux vrais problèmes de l'éducation. Donc vous voyez que dans cette démarche-là, il y a vraiment une approche politicienne de la chose et ce que les autres acteurs ont dit, c'est qu'aux autorités de ne pas se tromper aussi de cible, de ne pas se tromper de problème, parce que les problèmes les plus importants, surtout quand on veut qu'à l'horizon 2050, le Sénégal ait les ressources humaines qui lui permettraient de vraiment aller dans le sens d'un développement économique et social, il faut penser à renforcer les infrastructures, à renforcer tous ces autres aspects-là, dont la formation des cadres et autres, plutôt que d'insister sur des aspects qui sont vraiment minimes par rapport à la question. Quelle est l'utilité de porter le voile dans une école privée? Ils vont apprendre la même chose, ils vont avoir le même enseignement. Le signe religieux n'a aucune importance dans l'enseignement qu'ils reçoivent, dans la façon dont ils vont se comporter dans la cour. Donc, vous voyez que c'est une polémique qui ne devrait vraiment pas en être une. Et c'est pourquoi, lorsque les acteurs ont commencé à élever la voix, tout le monde s'est accordé pour dire que vraiment, il faut mettre un terme à cette polémique naissante. Et je pense que depuis, on est maintenant à presque 3 semaines de l'ouverture des classes, personne n'en parle. C'est vraiment un point qui est dépassé, une polémique qui est mort-née. Et bon, maintenant, on verra si d'autres actes vont être posés pour savoir si vraiment il s'agit d'une islamisation de l'enseignement ou bien s'il s'agit d'autre chose. Ça, vraiment, c'est ce qui reste à voir. Puisque hier, les autorités ont décliné dans l'agenda 2050 qu'ils vont mettre en œuvre que leur agenda pour l'éducation, on n'en a pas parlé. Donc, cela veut dire que, bon, que cette polémique-là va s'estomper très bientôt.
Est-ce que le gouvernement actuel est-il capable de revoir sa copie et de faire marche arrière sans plonger dans le populisme, comme vous l'avez dit? Quel rôle l'État devrait-il jouer pour assurer un équilibre entre la liberté religieuse et la laïcité dans les écoles?
Alors, comme je vous l'ai dit, en tout cas, la laïcité telle qu'elle est comprise ici au Sénégal, c'est que tout le monde compte. Si on veut que tout le monde compte, il faut trouver un point de consensus sur le fonctionnement en tout cas sur la manière de régler sa façon de penser religieusement au niveau de l'école. Donc ça, ce consensus-là, il a toujours été là, et je pense que ce consensus-là va rester. Deuxièmement, l'État aussi a la possibilité, une fois qu'il aura vu que, au fond, il n'y a pas eu de polémique, de revoir ce texte-là et de faire en sorte que il n'ait pas trop d'impact sur les règlements intérieurs des écoles. Troisièmement, et bon, heureusement que les gens n'ont pas agi dans ce sens-là, les directeurs des écoles catholiques, les parents d'élèves catholiques et autres avaient aussi la possibilité de saisir la justice, parce que c'est un arrêté ministériel qui est susceptible de faire du tort à des personnes, et ces personnes-là ont la possibilité de saisir les tribunaux administratifs. Mais jusqu'à présent, tout le monde a considéré que bon, que c'était pas un problème très 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 sérieux, que peut-être après quelques semaines de pratique, on se rendra compte que bon, qu'il n'y a pas péril à la demeure, et que donc on doit laisser les choses se tasser d'elles-mêmes. Et je pense que c'est cette démarche qui est prise, et si cette démarche-là se conforte, elle va montrer que l'idée que les Sénégalais se font de la laïcité de leur État est la bonne idée. Et que même si par-ci, par-là, des fois des gens peuvent lui donner un coup de boutoir, les Sénégalais vont rester fermes pour vraiment garder cette conception de la laïcité. Parce que c'est cette laïcité-là aussi qui fonde le vivre ensemble, qui fonde la tolérance qu'on connaît au Sénégal et qui est vraiment matérialisée par le mot teranga. Et donc, j'espère que tout le monde saura raison garder et que les choses reviendront rapidement dans l'ordre.
Teranga, tout le monde dans le même bateau. Ce débat sur la laïcité et le port des signes religieux en milieu scolaire au Sénégal nous rappelle l'importance de concilier liberté religieuse et respect des principes de neutralité dans l'espace public. Monsieur Kan, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci également à Joselle Morissin qui a assuré la production et la réalisation. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.